Neuf et reclus.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Forêt Reclus à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 MHz sur Radio Plaisance en Périgord Noir. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 10 mars et aujourd'hui, comme tous les autres jours, il n'y a aucune excuse ni raison de tuer quelqu'un. Et nous allons parler aujourd'hui de la police qui assassine, qui brutalise, etc.
Aujourd'hui, on est avec Walid du comité Vérité et Justice pour Hakim Hajimi, en direct depuis Grasse par téléphone. Bonjour Walid.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, on consacre une émission à Hakim Hajimi, tué par la police de Grasse par la BAC le 9 mai 2008. Et on va aussi parler de ce qui s'organise à partir de ces assassinats policiers, on peut dire. Donc d'une rencontre que le comité Vérité et Justice pour Hakim a organisé début février à Nice. Et puis d'un appel de Poitiers, de ce qui se prépare pour le 19 mars un peu partout en France.
Okay.
Donc, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les faits et l'histoire de Hakim?
Alors, il n'y a aucun problème.
Si tu peux nous raconter ouais, toute l'histoire et tout ça.
Ouais, bah écoutez, donc je peux vous raconter. Donc déjà, je suis obligé de commencer par des remerciements. Merci de nous inviter donc de parler du drame qui a touché la famille Hajimi et qui a touché Hakim. Pour nous, c'est un moteur, parce que sans donc les associations, sans les médias, sans donc les partis donc qui se rallient à la famille donc pour mener ce combat, on aurait eu beaucoup de difficultés à obtenir aujourd'hui la mise en examen des agents de police pour homicide involontaire et non assistance à personne en péril. Donc merci vraiment. Je préfère commencer par là. Ce qui est arrivé à Kim, donc c'est qu'il a eu donc ce jour-là une interpellation très très musclée. Donc cette interpellation donc l'a mené à la mort. Donc il n'y a rien donc qui justifie l'exagération de l'interpellation. Puisque en fait Hakim a eu donc une altercation à la banque. Donc quand je dis une altercation à la banque, il n'a pas essayé de faire un hold-up ou il n'a pas essayé donc de faire un braquage. Hein, donc
non, il a un peu discuté fortement avec le banquier, quoi.
Exactement, il s'est discuté avec le banquier et donc de là, mais on n'en a aucune certitude. Ils en seraient venus donc à des violences verbales et donc voilà, ça s'est arrêté là. Donc ça touche, je veux dire, 90% des Français qui n'a pas eu un problème, je veux dire, à la banque, quoi.
C'est ça. Et ils voilà. Ont appelé la police en fait, le banquier en question.
Voilà, donc le banque police. Donc entre temps, donc Hakim était parti. Et donc le banquier a expliqué qu'il y avait eu quelqu'un donc de récalcitrant qui lui aurait mis une gifle, donc au banquier. On n'en a pas forcément la preuve.
Non, il n'y a pas de témoin ni rien.
Non, rien sur la banque, on n'a absolument rien. Quand bien même, Donc à partir de là, voilà, donc des agents de police donc vont intervenir pour interpeller Hakim et c'est là donc que tout va dégénérer. Puisque donc les agents de police au lieu de s'abstenir tout simplement de l'arrêter et de l'amener au commissariat, ils vont vouloir lui donner une leçon et puis c'est ce qui va coûter la vie à Hakim.
Donc, apparemment oui, c'est donc c'est la BAC en fait qui est en patrouille et qui fait en sorte de remonter depuis le domicile de Hakim. Qui connaissait pour avoir déjà l'avoir déjà interpellé une ou deux fois et donc c'est un peu
Donc ouais. donc selon leur procès-verbaux à eux, hein, donc ils le connaissaient de l'avoir interpellé une première fois sans avoir eu aucun problème avec ce jeune homme. Mm-hmm. Donc c'est eux qui le précisent. Et donc là, donc selon leur procès-verbaux toujours, ils sont surpris de voir que cette fois-ci Hakim ne veut pas donc les suivre au commissariat. Donc à partir de ce refus, donc les agents de la brigade anticriminelle donc veulent le prendre chacun d'un côté donc par les bras pour l'amener donc au commissariat. Mais donc le problème, c'est que Hakim refuse et au moment donc de le tirer donc un peu violemment, un peu fort, en essayant de dégager ses bras, il fait tomber les deux agents de la BAC par terre. Et on imagine facilement que deux agents de la BAC, donc assez costauds, oui. Devant Hakim qui faisait 65 kilos tout mouillé, donc pour 1m80.
Contre deux balèzes, c'est vrai, tu peux les faire tomber tous les deux en même temps, ouais.
Oui, non, mais il a dû
avoir. C'est pas du tout plausible.
Oui, voilà, il a dû avoir, je sais pas, un coup de bol, puisque lui, c'était en essayant de s'extirper, donc de retirer ses bras. Donc qui sont tombés, donc je sais pas comment ça s'est fait, mais ceci étant, c'est sûr que quand ils se sont relevés, ils étaient particulièrement donc en colère. C'est là que tout commence à dégénérer. Ils lui sautent donc au cou, hein, et ils l'empoignent donc violemment. Et donc là, donc lui, il continue à essayer de se démener, à ne pas se laisser faire. Et il l'amène au sol, voilà.
Et à partir de là, ils entreprennent de le maîtriser, comme ils appellent ça, avec le geste qu'ils ont appris en école de police.
Exactement.
Et ce qui va suivre, c'est un vrai assassinat, en fait. Et là, par contre, il y a des témoins, ouais. Ça se passe dans la rue.
Une fois par an, en fait, dans la ville de Grasse, il y a la fête du jasmin, hein, puisqu'on est dans la capitale mondiale du parfum. Et c'est une fête qui draine énormément de monde. Oui. Donc très très vite, donc il va y avoir beaucoup de témoins donc de la scène qui se déroule. Et la police municipale donc étant là donc pour contrôler donc cette manifestation, enfin la manifestation de la fête du jasmin, vont très rapidement être auprès des agents de la brigade anticriminelle. Donc très très rapidement. Dès le début, en fait, hein, dès le début, ce qui nous a permis à nous donc de contredire les agents de police et de faire en sorte qu'ils soient aujourd'hui mis en examen, c'est les témoignages. Oui. C'est les personnes qui sont arrivées le soir même complètement dépitées d'avoir vécu un meurtre et en restant tout simplement, en fait,
spectateur,
ouais. Voilà, parce que il y avait donc les deux agents de la BAC, n'est-ce pas, et aussi il y avait après comme policiers municipaux, ils étaient 5 ou je sais plus, voilà. En tout ils étaient 11, ils étaient assez nombreux pour un seul homme quand même.
Exactement, c'est ça en fait. Donc ils le mettent au sol. Donc l'agent W donc l'étrangle, lui fait cette clé d'étranglement, donc il est assis sur son dos et puis avec une clé de bras donc il l'étrangle.
Alors attends, Walid, c'est toi le nom?
Attends. On a les noms des personnes de la BAC en fait.
Alors vas-y.
Les personnes.
Je vais peut-être pas toi.
Ben moi j'ai vu que il y a quelqu'un qui s'appelle Walter Le Bopin, qui est quelqu'un de la BAC de Grasse, et Jean-Michel Moignet, C'est les deux personnes qui sont un peu les protagonistes principaux de l'interpellation, et c'est entre leurs mains que qu'Hakim s'est trouvé en passant de la vie à la mort, quoi.
Exactement.
Et donc en fait, il s'assoit dessus.
Donc il s'assoit donc à califourchon donc sur le dos de Hakim, l'étrangle donc l'agent W donc et l'agent M donc s'assoit donc sur la partie basse de son dos, donc ils sont quand même enfin deux hommes virulents à s'asseoir sur son dos et puis à lui écraser donc la cage thoracique avec donc l'agent W qui l'étrangle et l'autre qui lui tient les pieds. Voilà, en fait ils lui font une espèce de clé où il l'immobilise complètement.
C'est ça, ouais.
Et donc là, ils lui mettent les menottes.
Aux chevilles
et aux mains.
Et aux mains.
Aux mains voilà. dans le dos.
Et voilà, exactement. Donc il lui. Alors, cela serait dû donc à l'excitation immaîtrisable donc de Hakim. Et donc nous, on le. Quand je dis nous, donc la famille, enfin le comité, les proches, on conçoit parfaitement, d'accord. Il est excité, il est énervé, ce jour-là, il gifle son banquier, il veut pas suivre les agents de police, il n'y a aucun souci, on le maîtrise, il faut donc que les agents de la force de l'ordre donc puissent exercer cette force donc pour maîtriser donc cet individu récalcitrant, d'accord, on comprend tout ça. Mais là où on ne où plus rien ne justifie ce qui s'est passé, c'est que à partir de ce moment-là, c'est-à-dire immédiatement, il est menotté.
Voilà.
Il est menotté. C'est-à-dire que tout ce qui va suivre, donc de violence, des coups qui lui ont été portés au visage, donc au torse, les coups de genoux, enfin les coups de pied, donc les coups de poing,
c'est de la torture et du lynchage devant des témoins.
C'est de la torture.
C'est ça.
C'est pour ça que Maître Henri Leclerc nous a demandé, donc quand nous l'avons rencontré, est-ce que vous voulez que on essaye de voir si on peut pas plaider contre de la barbarie, quoi.
Oui.
Parce que carrément. Voilà. Voilà. Donc on a eu, si vous voulez, un spectacle de déversement, enfin de haine, sur un jeune qui, au départ, donc ne veut pas donc les suivre, et qui pendant toute son interpellation va essayer de faire comprendre qu'en fait il a plus d'oxygène. Et le problème, c'est que les agents donc vont vouloir lui donner une leçon pour qu'il apprenne donc à obéir et puis à suivre sans avoir aucune opposition. Et pour cela, donc, ils vont l'étrangler.
Avec la clé d'étranglement.
Avec la clé d'étranglement, en étant...
Et la clé de bras.
Voilà, c'est-à-dire la clé de bras. Après, donc, comme vous l'avez dit, donc, au bout de même pas 3 minutes, hein, donc il y avait donc 3 agents de la police municipale. Alors je suppose que c'est grâce aux échanges radio, très vite, il y avait donc deux motards de la municipale. Donc ça fait 2, 5, 6, 7. De là arrive encore une voiture de la police municipale. Donc en tout et pour tout, ils étaient 13 agents. Voilà. Avant qu'arrivent donc les quatre autres agents de la police nationale. Donc là, à ce stade-là, il y a Gérard Ludovic et je sais plus comment s'appelle et son ami donc deux collègues donc qui assistent à ce dramatique spectacle et qui veulent intervenir physiquement et il lui dit écoutez moi je suis maître chien c'est bon il est maîtrisé vous l'avez menotté lâchez-le. Et son copain donc a une canette de bière dans la main, donc là il y a un agent, donc un des deux agents de là-bas qui se lève, donc à partir de ce moment-là, il a vraiment toutes les chances d'être sauvé, et qui lui dit de quoi tu te mêles toi, et viens là je vais te régler ton compte, et il se lève, et il fait arrêter par le véhicule de la police, par les agents donc arrivés en véhicule de la police municipale, il le fait amener au commissariat.
Pour état d'ivresse
Exactement,
tout ça.
Et ivresse sur la voie publique, bien sûr. Mmh. Ivresse sur la voie publique. Alors que, je veux dire, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'il est en train, lui, de constater, comme tout le monde, qu'il est en train donc de déverser donc une violence extrême sur ce garçon. Et surtout que le public, eux, voit le visage de Hakim. Et donc là, il y a plusieurs témoins, donc plusieurs, des femmes, des hommes. Il y a même, écoutez, des agents de police dans leurs procès-verbaux qui n'ont pas pu faire autrement que de dire que oui, effectivement, son visage devenait violé. Il essayait de respirer. Donc voilà. Donc c'est dans ce dans ce tableau d'horreur là qu'ils vont rester donc dans cette position selon eux, selon les brigades de la BAC, selon la brigade de la BAC, 10 minutes, mais selon les témoins de 15 à 20 minutes, jusqu'à ce que il y ait 3 témoins qui crient quand ils l'ont vu essayer de prendre son dernier souffle. C'était horrible. Il est mort. Enfin, ils l'ont tué.
Voilà. Ils l'ont tué. Alors, je voulais juste te dire quelque chose, parce que la clé des tremblements, on peut la faire, la pratiquer, mais même pas 3 secondes. Et moi, j'ai été formée quand j'avais 16 ans. C'était pas prévu à la base, mais bon, bref, je devais être à cheval pour faire de l'accueil avec les gens qui se promenaient dans le parc de la Courneuve. Puis après, ça a changé, on a dû en fait travailler avec la police montée qui est déjà à la Courneuve. Et donc, on a eu des cours de droit et des cours de self-défense. Et on nous a appris à faire une clé de bras, à faire une clé d'étranglement et un bec de canne, donc les maîtrises pour les interpellations qu'on pouvait faire à cheval, mais aussi au sol. Et donc moi, on m'a dit, surtout la clé de bras, faut pas que ce soit quelqu'un de plus fort que vous, faut surtout pas la faire toute seule, faut être toujours avec quelqu'un. Vous faites la clé de bras sur quelqu'un qui est plus quitte vous, mais le plus simple, c'est déjà de le mettre par terre. Que vous ou votre collègue s'assoit dessus et après, vous pouvez la faire. Mais en fait, moi, j'ai refusé après de m'entraîner à faire ça, parce que ça se voit que déjà, la personne est à terre et qu'il faut en plus s'asseoir sur son dos, être voilà à califourchon sur lui et de l'étrangler en serrant fort, mais pas plus de 3 à 5 secondes, sinon il est mort.
Exactement.
Donc cette clé d'étranglement, en fait, c'est les policiers mis en cause, ils se défendent en disant qu'ils ont fait qu'appliquer la technique d'interpellation qu'ils ont appris, pour laquelle ils ont été formés, quoi.
Exactement.
Donc c'est une des clés du problème, et c'est une des pistes d'action pour le comité Vérité et Justice.
Exactement, c'est-à-dire que nous dans les recherches que nous avons effectuées, donc effectivement, donc hein, selon les documents donc de la police, cette clé d'étranglement ne peut pas dépasser les 3 à 5 secondes. Et c'est écrit en caractère gras et c'est répété, donc surtout ne pas dépasser 3 ou 5 secondes. Je vous le dis, donc les procès-verbaux de l'agent W et l'agent M nous disent qu'ils sont restés 10 minutes et les témoins disent qu'ils sont restés de 15 à 20 minutes. Mais vous savez, quand vous discutez avec les témoins, quand les témoins viennent vers vous le soir et qui pleurent, en fait, qui ont suivi une violence, en fait, psychologique, hein, puisque, en fait, ils ont assisté à la mise à mort de quelqu'un en étant complètement impuissant. Et je pense que ça, c'est une grosse violence. Tout dépend, donc, le mode d'éducation qu'on a eu. J'ai cité, donc, Gérard Ludovic, c'est quelque chose d'insupportable. Parce que cautionner ça, donc, c'est cautionner la barbarie, comme vous l'avez dit.
D'être impuissant face à ça, en plus.
Exactement. Exactement. Donc, ce qu'ils ont pu faire, c'est de tous venir, et ils l'ont très bien fait, et nous donner leur papier d'identité, les témoignages, et donc là, c'est ce qui nous a permis, enfin, de dénoncer cette violence, et voilà, et de pouvoir se battre pour que vraiment, même si on appartient au corps de la police, il faut qu'on garde, je veux dire, des principes éthiques. Ce qui est dramatique, c'est qu'il est menotté au bout de 1 à 2 minutes. Il est menotté. Il est menotté. Voilà.
Et donc, juste pour finir, après on va écouter un peu de musique et puis on reparle après. Juste pour dire, tu vois, justement, si tu apprends à des gamins de 16 ans qui veulent juste faire de l'accueil sur un cheval, et on t'apprend ça, alors on voit que les vigiles dans les magasins ou dans les banques, tout ça, ils doivent avoir ça, être formés aussi pour faire ce genre d'acte barbare qui est interdit dans d'autres pays. Et donc voilà, donc c'est assez terrifiant de voir ça.
Parfaitement. Ouais. C'est triste.
Très.
Ouais.
Quand je pense à un flic, je pense à un mec bête avec un flingue à la ceinture. Quand je pense à moi, je pense à un scalpel avec un portefeuille sans pull. Dans la rue, ça tourne. La différence entre nous, c'est le côté de la barricade. Cocktail Molotov contre Gomcom. Ça pisse le sang, coup de matraque en plein dans l'arcade. Ça roule en civil en espérant te braquer. Je nique le flic de Beverly Hills et d'Hollywood. Parce que la vérité est masquée. On fait tomber les masques. Je transforme ta pute de CRS en mascotte. Je sens la haine monter quand ces salauds m'asticotent. L'uniforme pue comme celui de la RATP. Bleu ou vert, c'est pareil, j'en ai rien à cirer. Bavure, ça rime avec immigrant battu. Ça me donne envie de vomir, surtout pour le collègue dit qu'il n'a rien vu. C'est la loi de la jungle, celle du plus gros bâton. Ce fils de pute insermenté fait ce qu'il veut au milieu du béton. Pour une barrette de shit, il se fout béton. Alors que ce bâtard Chirac a détourné des millions. J'essaye de comprendre, mais je crois qu'à plusieurs vitesses. En tout cas, il y a celle des riches et des pauvres sans pognon. Je te jure, je préfère porter des cartons que devenir maton. Le civil contrôle assermenté. Un putain de contrôle agrémenté. De bombes lacrymogènes et de bavures. De putain de coups de matraque dans la figure. Le civil contrôle assermenté. Un putain de contrôle agrémenté. De bombes lacrymogènes et de bavures. De putain de coups de matraque dans la figure. Comment comprendre un mec qui touche un salaire de misère pour te la faire? Patate dans la bouche, la ferme. Pas de droit de l'homme, bavure, classé et l'affaire. Pour l'uniforme, pas une peine de prison ferme. En bonne et due forme, le commissaire veut nous la faire à l'envers en somme. Légitime défense, il change les termes. Contre ces fils de pute, on ne peut lutter. Ça tue en toute impunité, un gars buté, ça se retrouve muté. Un peu naïf, respectueux du shérif. Réalité, coup de crosse contre l'abusif à la recherche d'un fif. Aucune peine, il n'encourt. L'immunité sur un simple concours. Et me dit charge non cours. Pendant que la bague braque et matraque, on rappe et met les scutes dans les bacs. On se doit de départ, marche avec nous et on boite le bas. Contre la police, son état qui nous passe à tabac. Ici bas, la justice, y'en a pas.
Le civil contrôle assermenté. Un putain de contrôle agrémenté. De bombes lacrymogènes et de bavures. De putain de coups de matraque dans la figure. Le civil contrôle assermenté. Un putain de contrôle agrémenté. De bombes lacrymogènes et de bavures. De putain de coups de matraque dans la figure.
Justice pour Hakim dans Forêt Reclus à l'Elysée avec Walid. Donc on parlait de la clé d'étranglement, technique de maîtrise enseignée dans les écoles de police et d'une possible interdiction de cette clé d'étranglement comme ça existe dans d'autres pays. D'ailleurs il y a eu une campagne en 2009 qui s'appelait Police Personne ne bouge contre les pratiques policières mortelles.
Oui.
Ouais. Je sais pas si
oui.
Tu... Oui.
Donc en fait, police personne ne bouge sont sur le terrain donc à Paris donc depuis des années et c'est une des premières associations qui nous a aidé donc à se situer en tant que comité pour pouvoir organiser un mouvement enfin un comité donc de résistance et de mobilisation. Pour pouvoir, je n'aime pas tous les mots affronter ou alors se battre, non, mais en tout cas pour pouvoir donc rester mobilisé pour que la justice se fasse. Parce que la plus grande difficulté donc rencontrée par la famille donc depuis ce drame, c'est que dès le lendemain, les rôles ont été inversés, puisque c'est la police donc qui est impliquée, donc dans la tête et dans la mœurs et dans le et dans les mœurs des gens, forcément, et si c'est un arabe en plus, c'est qu'il a fait quelque chose, c'est qu'il n'avait pas à faire ça, c'est qu'il devait être puni, il avait qu'à être chez lui. Donc des courriers donc très très violents donc déposés dans la boîte aux lettres de la famille. Donc pour pouvoir donc contrer tout ça, police, personne ne bouge, donc le MRAP, le mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples, un grand nombre d'associations, et surtout Police Personne ne bouge, nous a aidé à nous constituer en comité pour soutenir la famille, pour pouvoir donc organiser donc des manifestations et des mobilisations donc pour que la justice puisse s'appliquer aux agents de la police comme elle s'applique à n'importe quel citoyen. Donc voilà, donc oui, donc ils ont déjà commencé, donc eux depuis des années ont commencé à demander qu'il y ait l'interdiction de la clé d'étranglement, mais malheureusement il n'y a pas donc de projet en vue pour essayer d'être pour une fois en France l'un des premiers pays à essayer donc de réformer son système contre cette technique qui est vraiment enfin une technique barbare quoi et meurtrière.
Et vous justement au sein du comité de justice et vérité pour Hakim, vous vous battez pour que cette clé d'étranglement soit interdite?
Oui exactement, puisque elle est interdite donc déjà dans la ville de Los Angeles. Hein, oui. Puisque en fait Los Angeles donc dans sa définition donc interdit tous les incidents impliquant l'usage de la force meurtrière, hein, puisque c'est ça, c'est pas le but de la police quoi, de tuer les citoyens qu'elle arrête quoi. Et surtout donc d'interdire toutes les utilisations de contrôle de retenue carotide. Voilà, donc toutes ces techniques de strangulation, donc ça c'est ce qu'on retrouve aussi en Suisse, hein, puisque en Suisse aussi, donc en s'agissant donc de l'utilisation des techniques de strangulation, donc on interdit ça. Et en Europe, donc il y a eu dans la Cour européenne, pardon, donc la France a été condamnée à la suite de la mort de Saoud, elle a condamné donc la France. Pour cette technique-là, la Belgique aussi, donc interdit donc cette clé d'étranglement, et on aimerait que la France s'inspire donc de ces pays-là et utilise, apprenne donc aux forces de l'ordre à utiliser d'autres techniques pour que une simple interpellation donc ne se transforme pas en la disparition.
Un assassinat de quelqu'un.
Un assassinat en public, exactement.
Ouais. Et donc, pour le comité, justement, comment ça a pu se mettre en place, tout ça
Donc, au départ, les citoyens de la ville de Grasse ont été vraiment tous. Enfin, il y a eu plus de 1000 manifestants, je veux dire, pour la petite ville de Grasse, donc. Deux jours après la mort de Hakim, ce qui est un nombre vraiment, je veux dire, important pour la petite ville de Grasse. Donc, et puis à chaque fois donc qu'il y a eu une manifestation pour la commémoration de sa mort ou une manifestation tout simplement pour dire que voilà quoi, on attend vraiment que justice soit faite et on vous laissera pas étouffer cette affaire. Il y a eu donc 800 personnes. 500 personnes, donc les citoyens restent très mobilisés donc dans la ville de Grasse et alentour, hein, région PACA, pour attendre de voir comment la justice, donc devant des faits aussi donc évidents et donc aussi donc maintenus autant par les témoignages que par l'expertise médicale, parce que ce qu'on nous a dit donc pour commencer à étouffer l'affaire donc au départ, c'est et vous savez, les badauds, ils racontent ce qu'ils veulent, il faut qu'on attende l'expertise médicale. Alors ça a été la première gifle monumentale qu'a pris la famille, c'est-à-dire qu'elle s'attendait, elle, à ce qu'ils soient démis de leurs fonctions, elle s'attendait à ce qu'ils n'exercent plus dans la ville de Grasse, oui. Que le minimum soit fait donc pour préserver tout simplement donc la vie des citoyens et puis surtout donc pour que l'enquête se fasse très rapidement pour savoir qu'est-ce qui est arrivé donc à leur fils. Et donc là à ce jour, c'est-à-dire pratiquement 3 ans après, ces agents de police exercent toujours. Donc on nous a dit attendez l'expertise médicale est venue conforter dans les moindres détails, les témoignages des personnes donc présentes dans le meurtre de Hakim. Je m'explique, c'est-à-dire que si les témoins avaient dit qu'un agent de police donc lui a mis un coup de genou donc sur les côtes ou est descendu violemment donc avec son genou sur ses côtes, ben l'expertise médicale va confirmer que au niveau des côtes il y a un fort hématome, vous voyez. Donc l'agent W donc dit qu'une fois menotté, il lui a mis un très gros coup de poing donc sur la figure. Et donc il sera contredit par son coéquipier, puisque lui il dira oui. 2 coups de poing, donc ils se contredisent. Mais donc là, on va voir aussi l'expertise médicale qui va confirmer. Et donc l'expertise médicale confirme le plus, c'est qu'effectivement, il est mort d'asphyxie mécanique, c'est la strangulation donc ils lui ont pratiqué, et l'écrasement de la cage thoracique qui lui aura interrompu toutes les voies respiratoires, et... qui a tué Hakim. C'est leur technique, c'est leur main, c'est leur incompétence, c'est leur violence, c'est leur manque de discernement, c'est leur formation qui les a dépassés et qui a fait qu'ils ont tué un gamin de 22 ans sur le trottoir. Et vous avez dans le procès verbal l'agent W qui dit quand je me suis relevé, je n'avais pas vu qu'il y avait autant de monde autour de moi. On s'en fout.
Mais c'est ça, oui.
Est-ce que tu peux nous dire en fait où ça en est au niveau judiciaire, sachant que donc il y a tous ces témoignages, que les faits ils sont connus, que le travail du comité a fait que ils sont de notoriété publique en fait. Il y a eu ces expertises médicales, il y a eu un avis et des recommandations de la Commission nationale de déontologie et de la sécurité. Et en fait, malgré tout ça, en fait, les flics ils sont toujours en fonction et la justice elle traîne des pieds ou elle couvre. On a le sentiment qu'elle couvre, qu'elle fait durer les choses pour que.
Mais c'est bien plus qu'un sentiment, c'est la réalité. Oui. C'est-à-dire que donc une instruction a été ouverte. Donc nous on a pu donc amener tous les témoignages. On a attendu cette fameuse expertise médicale, hein, donc bien sûr, on a digéré donc avec nos manifestations, avec nos mobilisations, pour attendre donc que la justice fasse son travail, hein, parce qu'on est bien d'accord en fait, hein, on attend juste que la justice elle fasse son travail. On n'attend pas qu'elle soit partie prise ou qu'elle fasse du corporatisme avec qui que ce soit dans cette société, ni avec le président Chirac, ni avec les agents de la BAC. Donc en attendant donc que la justice fasse son travail, on s'est mobilisé. Et quand la justice, donc après donc plus d'un an, donc va clôturer donc son instruction, accrochez-vous, donc elle met les 4 agents de la police nationale qui ont transporté le corps de Hakim, mis en examen pour non-assistance à personne en danger, en péril exactement, et les 2 agents de la BAC, elle va les mettre témoins assistés. Alors, qu'est-ce que c'est que témoin assisté ? Témoin assisté, en fait, c'est un statut complètement bâtard. C'est-à-dire que vous devez donc vous présenter au palais de justice, hein, au correctionnel, hein, bien sûr, c'est pas quelque chose qui mérite les assises de tuer quelqu'un, et surtout un arabe, je veux dire, on va pas aller aux assises pour ça. Donc, vous devez vous présenter au tribunal, donc au correctionnel, pour répondre donc du vol de votre tablette de chocolat, mais il faut que vous veniez accompagné d'un avocat. Hein, on sait jamais, au cas où il y aura une procédure administrative donc à régler. Donc de là, dans nos têtes, je veux dire, c'est l'effondrement, puisque avec tous les éléments qu'on a, que ce soit les témoignages ou l'expertise médicale, on s'attend pas à ce que les 2 agents de la BAC passent au travers, d'accord ?
Oui.
Donc à partir de là, on comprend qu'on est tombé sur, hein, donc la juge Bonici et la juge André, qui ont décidé, donc contre tout vent, de ne pas impliquer donc les agents de la BAC dans la procédure judiciaire.
Elle demande un non-lieu, c'est ça ?
Alors le non-lieu viendra après, puisque là donc vous avez des recours, hein, et là je me rassure en me disant que la justice fonctionne difficilement, mais elle fonctionne, puisque on a pu donc par l'intermédiaire de recours aller donc à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, on a pu obtenir l'appui du procureur, puisque au départ nous n'avions pas le procureur. Donc avant d'aller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, nous avons organisé donc avec le comité donc et toutes les associations qui soutiennent donc la famille un forum dans la ville de Grasse. Donc lors de ce forum, une forte mobilisation a fait pencher, si je peux dire ça comme ça, le procureur aux côtés de la famille. Puisque depuis le début, donc le procureur demande la mise en examen de ces agents de la brigade anticriminelle pour qu'ils puissent donc s'expliquer et pour qu'ils puissent donc répondre des faits de ce jour-là. Donc on est arrivé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec donc la demande de mise en examen pour homicide involontaire et non-instance à personne en péril pour les agents de la BAC avec le procureur. Voilà. Donc Donc c'est là que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a accepté de demander au juge d'instruction de la ville de Grasse de réouvrir l'enquête au vu donc d'une mise en examen. Mais là donc, accrochez-vous, donc tout ça c'est des mois hein, qui passent. Hein. Je vous décris pas le drame donc dans la tête de la famille. Donc des mois après, c'est là que les juges d'instruction vont, je veux dire, contre tout courant, hein, puisque leur statut, en plus à l'époque, donc de juge d'instruction, est remis en cause par le gouvernement Sarkozy. Et donc là, contre tout courant et contre tout vent, elles vont encore plus les disculper, puisqu'elles ne vont pas demander un donc, témoin assisté, elles vont demander un non-lieu. Dire qu'ils n'ont aucune responsabilité. Ouais. Voilà, donc alors là, ça a été vraiment, là, ça a été vraiment un choc. Là, on s'est dit, voilà quoi.
Ouais, on va écouter un peu de son.
Justement, qui parle du problème de faire reconnaître la justice. En fait, c'est l'intervention de Ilan Kiran aux rencontres du 5 février à Nice. Donc, Ilan Kiran, c'est le frère de Umut, qui est exécuté par la police suisse dans la nuit du 17 au 18 avril. On écoute et puis tu pourras réagir sur le... Justement sur le travail de la justice par rapport au travail des comités, et on écoute ça.
Bonjour tout le monde, je vous remercie beaucoup de votre présence à tous ici. Et puis, je vais raconter ce qui s'est passé concernant mon frère. Alors, en fait, quand les médias ils disent qu'ils ont essayé de forcer un barrage, alors que c'était pas un barrage qui était installé, c'était dans un tunnel au virage. Nous n'avons même pas les vidéos du véhicule de police ou du barrage en question, parce que c'est dans un angle mort. Le policier, il était en joue, il attendait que le véhicule passe, et 50 mètres avant qu'il traverse une herse. Alors une herse, ça n'a rien à voir avec un barrage. Quand on dit barrage, on s'imagine une route carrément coupée, il n'y a rien qui a été forcé. Et le policier a pris, il a visé, il a tiré 7 balles à la hauteur d'homme, c'était, il a tiré pour tuer. Donc c'est, ça a été une exécution. Et là, actuellement, on est en train de se battre contre ça, mais mes espoirs sont très minces parce que je sais pas, 99% des cas, le policier va être acquitté ou il aurait une peine tellement ridicule que ça ne changera pas grand-chose. Parce qu'il faut savoir que la justice... moi aujourd'hui je dirais pas que j'ai confiance dans la justice ou je demande justice, parce que je sais que la justice elle est là pour protéger la police, parce qu'elle travaille avec et les pouvoirs publics, les médias aussi pareil, parce que quand ils reprennent des affaires, donc pas mal d'affaires où il y a un mort, les médias ils sont derrière pour essayer d'expliquer à sa façon face à l'opinion publique pour qu'il n'y ait pas de manifestation, qu'il n'y ait pas d'aide à la famille. En même temps, moi, Nous, on a pu faire tout ce qui était nécessaire au niveau des avocats, on a trouvé les bons avocats pour l'instant, et tout ce qui était nécessaire, parce que depuis les années 2000, moi j'étais déjà dans le milieu, je connaissais un peu de monde. Mais je me rencontre aujourd'hui, parce que j'ai aussi contacté beaucoup de familles qui étaient aussi victimes de cette affaire, c'est qu'on n'a aucun conseil, on ne trouve même pas les bons avocats qu'il faut, c'est qu'il y a un vide total derrière. Et certaines associations qui existent, je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit, mais on ne les voit pas non plus, je veux dire, alors que à long terme, on ne les voit pas. Il n'y a que 2 ans après, 1 an après, 8 ans après, quand on parle de ça. Et aussi, une chose que j'aimerais dire, c'est que ce qui se passe dans les quartiers actuellement, c'est bien la vidéo qu'on a vue aujourd'hui, c'était parfait, je suis d'accord sur beaucoup de points, mais aussi, c'est l'actuel, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait d'autres émeutes, d'autres hackings, pour éviter qu'il y en a d'autres? Parce que je sais que moi, aujourd'hui, mon combat que je vais mener, ce n'est pas pour avoir justice pour mon frère. C'est surtout aussi pour sauver d'autres vies. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, on peut, n'importe lequel d'entre nous peut être victime de ça, devant face à la police. Et ça, on ne se rend pas compte, parce que ça commence à être quelque chose de banal. À la télé, on voit ça, maintenant, c'est devenu quelque chose de tellement banal que ça ne fait ni chaud ni froid maintenant. Et il faut surtout aussi, dans les cités aussi, moi j'ai beaucoup visité les cités, les quartiers, un peu, pas partout en France, mais là où j'ai pu aller, et là aussi on se rend compte que c'est eux qui sont en première ligne, qui sont victimes de ça, et il n'y a personne aussi à côté pour pouvoir, il n'y a aucun lien qui est créé avec eux, et je pense que sur ça aussi il faudra qu'on soit là et leur trouver des bons avocats quand il y a des choses comme ça. Beaucoup de gens dans les cités croient que ce que fait la police c'est normal, qu'ils arrêtent, ils tabassent, ils relâchent, ou parfois il suffit qu'ils forcent un peu trop, que la personne est un peu plus fragile que d'autres, et c'est le drame. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Forêt Reclus à l'Elysée, avec Walid au téléphone. Qu'est-ce que tu penses de cette intervention et d'un peu de la désabusion par rapport au travail de la justice, quoi?
Bah écoutez, moi je rejoins complètement le frère de... excusez-moi.
De Oumout.
Oui, je le rejoins complètement, vous savez. Donc aujourd'hui, la famille a exactement le même espoir qu'il n'y ait plus de mort par technique policière, la technique de la clé d'étranglement soit interdite, que les méthodes, que les techniques brutales de la police, ils doivent cesser. Donc il ne doit plus y avoir de crime d'enfants. Enfin, je veux dire. Alors, la France a été le dernier pays européen à interdire, à abolir la peine de mort. Donc, pourquoi là, elle ne serait pas, l'un de ces premiers pays à avoir interdit cette clé d'étranglement? Nous, c'est l'espoir qu'on a. Donc, pour ça, on se bat et on espère que des cellules comme la CNDS, qui nous a énormément soutenus par l'enquête qu'elle a menée à Grasse, reste indépendante et ne soit plus une autorité de l'État, qu'elle exercera encore par le haut sur ses citoyens sans leur donner un droit de regard et un droit d'appréciation du respect des codes de déontologie et d'éthique de la police.
Et justement, Walid, demain il y a des suites judiciaires à tout ça.
Oui, donc là, nos deux agents de la BAC ont utilisé leur dernier recours. C'est celui de la Cour de cassation à Paris. Et ils n'auront plus de recours à la suite de ça. Je vais vous dire très très sincèrement, après ce qu'on a vécu, on s'attend à tout. C'est-à-dire que on peut voir demain les deux agents de la BAC par une formule qu'on ne sait, comment elle aura été concoctée, disculpée, des accusations qu'il y a sur eux.
C'est-à-dire que tout peut s'arrêter demain, en fait?
Si vous voulez, d'avoir vécu les rouages de cette justice, on se dit ça, vous voyez. Mais d'avoir espoir maintenant, par contre, dans le fonctionnement de cette justice, malgré la montagne qu'on a en face de nous, on sait que demain leur recours sera sera donc et donc ils devront comparaître devant la cour correctionnelle de, donc du tribunal de Grasse. C'est ce qui doit se passer demain, puisque la cour de cassation est tout simplement donc un tribunal de vérification donc de la procédure du dossier. Donc nos avocats donc sont confiants sur ce terrain-là, et il n'y aurait aucune raison à ce que demain ils puissent comparaître. Quand je dis demain, donc à la date donc qu'ils renverront, pour les faits qu'ils ont commis. Je veux dire, ça serait une honte pour la justice française que devant tous ces éléments, je veux dire que devant cette maltraitance de la famille, après la maltraitance de cet enfant, il n'y ait pas là une démonstration de la justice française.
Ça, c'est sûr. On a aussi du son, donc...
On a l'enregistrement de l'intervention de Mathieu Rigouste, donc le 5 février à Nice. Il a fait une super intervention sur une histoire de la BAC qu'on diffusera dans une autre émission, puisqu'on a l'enregistrement grâce à Alexandrine et Yves. Mais là, on va écouter. En fait, il nous présente l'appel de Poitiers, qui est un appel à une journée nationale. Sur le problème des violences policières, ça, c'est le samedi 19 mars. Donc on écoute Mathieu Rigousse nous parler de ça.
D'accord. Rapidement, je vais vous présenter ce qu'est l'appel de Poitiers. Donc en novembre, à Poitiers, à l'appel du... je sais plus exactement le nom, du comité contre la répression des mouvements sociaux, quelque chose comme ça. Donc il y a eu un appel à différents comités anti-répression qui sont montés en France depuis 3-4 ans, et ça c'est une réalité dont il faut prendre conscience, notamment dans le fait qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se passent. Alors, il n'y avait pas de comité de vérité justice pour, par exemple, là-bas, ce qui moi me paraît très problématique. En l'occurrence, ces comités anti-répression qui se montent un peu partout, ils se montent sur des cas isolés, souvent quelqu'un qui a pris très cher en termes de prison suite à une manifestation, une révolte sur un quartier, des choses comme ça, où ils se montent une sorte de caisse de solidarité. Et puis des formations, que faire face à la police, que faire face à la justice, où il y a une liste d'avocats qui est mise en place avec qui dont les gens ont confiance, et après ils sélectionnent ceux avec qui ils peuvent bosser, etc. Et en tout cas, tous ces essais-là, ils ont, depuis 3-4 ans, ils ont tendance à perdurer autour de l'idée que la répression étant permanente, on peut plus se permettre de faire des comités à chaque fois, ça prend du temps. Il y a des outils qui sont créés à droite à gauche, ça sert à rien de refaire une brochure à chaque fois sur comment fonctionne la police, comment se défendre en garde à vue, etc. Il y a des outils qui existent, il y a des réseaux internet qui existent, alors là je pense par exemple au réseau Résistons Ensemble face aux violences policières, hein, qui sont à disposition. Et donc pendant 2 jours, à Poitiers, peut-être c'était le 30 octobre ou début novembre, je ne sais plus. Donc il y a eu 2 jours de rencontres, et de là est née l'idée d'appeler le 19 mars à une journée nationale d'action locale et à la coordination et à la fédération de toutes les expériences de résistance aux violences policières et de résistance à la répression. En gros, pour le 19 mars, ça veut dire de ne pas faire une manif à Paris où qui serait assez peu visible, mais d'utiliser ce jour-là pour toutes les expériences de résistance à la violence policière, s'occupent de leur cas particulier et fassent quelque chose ce jour-là chez eux. Et donc ça retentisse au niveau national, mais chacun s'occupe de ses cas chez soi et de développer aussi ses formes d'auto-organisation. L'autre appel, c'est un appel à, je ne sais pas si c'est unifié, mais en tout cas à coordonner toutes ces expériences à travers quelque chose qui ressemblerait à une sorte d'RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, une forme de réseau en tout cas qui donne plus de force à toutes ces expériences-là, qui leur permettent de se rencontrer, de partager, etc. Et il semble que ce soit la même volonté qui émerge de la plupart des comités Vérité et Justice pour... sur les mêmes principes, c'est-à-dire devenir plus fort, se rencontrer, que ces combats cheminent ensemble, parce que ce n'est pas les mêmes, effectivement. Quelqu'un qui subit une répression sur une manif, ce n'est pas la même chose que la répression constante, permanente, dans les quartiers, par exemple, ou en prison. Ce n'est pas les mêmes situations, et ça, il faut bien en prendre conscience. Par contre, c'est des luttes qui doivent cheminer ensemble. Et donc, il y a un appel à fédérer ces choses-là. Et la discussion qu'on a commencé à poser avec le comité Vérité et Justice pour Hakim Hajimi, c'était de trouver un lieu et une date, en fait d'abord un lieu, c'est-à-dire aussi des gens qui sont prêts à gérer la logistique pour accueillir les comités anti-répression, les comités vérité et justice pour autour d'une journée ou deux, je ne sais pas, pour poser les bases d'une coordination de toutes ces expériences-là.
Forêt reclus à l'Élysée avec Walid. Donc pour conclure, il nous reste 5-6 minutes, Walid, pour par rapport au 19 mars, qu'est-ce qui s'organise? Il y a un appel qui s'est greffé sur l'appel de Poitiers des familles des victimes de violences policières pour une marche vérité et justice à Paris. Le rendez-vous, c'est à 15h, place Saint-Augustin.
Oui. Oui, donc nous, on aura une représentante, un représentant donc, pour le comité donc, qui se rendra à cette marche. Donc évidemment, hein, sur une ville comme Paris, malheureusement, il y a beaucoup plus de drames similaires. Donc les mobilisations sont plus fortes et peut-être plus soutenues. Pour nous, donc ici, donc on va bien sûr essayer donc de suivre cet appel et donc d'être mobilisé ce jour-là, donc pour dénoncer donc ce qui peut toucher n'importe quel citoyen. Je veux dire, je pense que c'est de ça qu'il faut prendre conscience et de surtout, oui, venir, je veux dire, avec les familles, avec les comités. Je veux dire, on veut pas d'une société violente et puis irrespectueuse, je veux dire, de la dignité humaine, quoi. Parce que c'est ça, enfin, je veux dire, quelle police on veut. Enfin, c'est mourir, je veux dire, pour une interpellation policière, c'est dramatique. Donc
mettre tout en œuvre pour que on fasse ça avancer chacun et qu'on lutte pour cette interdiction là déjà, quoi.
Exactement, ça passera par là, donc par l'interdiction de cette technique, par des projets donc de loi. Hein, qui pourront donc émerger bien sûr donc des différents partis politiques et par des combats, puisque je veux dire il n'y a pas de secret, hein, je veux dire il y a des combats qui sont beaucoup plus difficiles à mener que d'autres et malheureusement sur ce terrain là la justice a vraiment, que ce soit la justice ou la police ou même les politiques, hein, ont vraiment beaucoup de mal à remettre en cause le fonctionnement étatique. Voilà, c'est cette grande difficulté qu'on rencontre.
Le premier combat, c'est déjà d'être dans la rue. C'est déjà d'être dans la rue pour dénoncer ces violences policières. C'est de dire la vérité sur ces violences policières. C'est ce qu'on essaye de faire avec toi. Puis c'est ce qu'on fera tant qu'il y en aura besoin, quoi. On pourra refaire d'autres émissions là-dessus, bien sûr.
Exactement. Donc voilà, moi j'invite vraiment donc tout le monde à essayer vraiment donc de comprendre ce qui s'est passé dans ce genre de drame et de ne pas donc tomber dans le piège de regarder
par les médias qui mentent pas mal aussi.
Exactement. C'est-à-dire que dès qu'il y a un jeune issu de l'immigration ou un jeune africain qui meurt donc dans les bras de la police, immédiatement c'est parce que c'est un délinquant, c'est parce que, je veux dire, voilà, ça c'est vraiment, je veux dire, le raccourci extrême qu'il faut absolument pas prendre. Et il faut donc s'intéresser donc un minimum donc à la violence que prend notre société et essayer donc de nager à contre-sens pour voilà, inverser la donne
et d'être solidaire et de faire circuler tout ça.
Mais bien sûr.
Donc le 19 mars à Périgueux ici, donc le collectif anti-répression, il organise deux choses. Il y a un rendez-vous, un rassemblement devant le tribunal à 11h30. Mm-hmm. Et il y a une projection de débat dans la rue devant le multiplex à 20h30. Mm-hmm. Donc voilà, ça c'est le rendez-vous à Périgueux. Et puis on suit, donc il y a des rendez-vous partout en France, il y a des collectifs anti-répression où il y a des comités vérité et justice, quoi. Donc on suit cette organisation là. Vous avez fait une rencontre un peu de réflexion sur ces violences policières début février. On a les enregistrements des différentes interventions, celle de Pierre Thévagnan, celle de Mathieu Rigouste, on les diffusera dans notre émission aussi, et on les fera circuler aux autres radios qui voudront le faire aussi, quoi.
Et ce sera évidemment, et tu tapes sur l'audio blog de l'émission, donc c'est audioblog.arteradio/forêtreclus à l'Élysée. Et moi je tenais à remercier tous ceux qui ont pu faire que cette émission soit réalisée. Donc déjà, merci à Fabrice pour la technique, à Élise pour tout ce qu'elle a fait aussi. Merci à Alexandrine et Yves du MRAP 06 pour les enregistrements, ce qu'on a entendu comme son. Merci beaucoup à toi, Walid. Je remercie aussi Romain et... voilà, je te laisse finir.
C'est moi qui vous remercie et qui remercie donc toutes les associations et toutes les personnes donc qui soutiennent cette famille, parce que vraiment, je veux dire, ce qui fait la différence des êtres humains, c'est les valeurs qu'ils portent, et d'être aux côtés donc des gens qui portent des valeurs humaines d'amour donc et de fraternité réellement. Pas juste symboliquement, c'est réconfortant, et puis ça apporte énormément à la famille et au mieux vivre, et puis en espérant que voilà, l'amour le remportera sur la haine.
C'est ça, que ça cesse.
Ouais.
Et on suivra ce combat, ce combat, parce que c'est quand même un combat en fait. Il y a quand même une force en face, et puis voilà.
Ouais.
Et même si on n'est pas armé comme eux, même si à main nue on fait pas des assassinats comme ça, nous, donc on ne lâche pas l'affaire.
Non,
et
on, pas.
Et on continue. Voilà.
La
donc.
Toujours.
Exactement. Merci beaucoup, Walid. Et puis, ben, dans 15 jours, ce ne sera pas contre les assassinats de la police, mais plutôt contre les maltraitances des blouses blanches.
Donc, d'accord.
Au revoir.
On suivra. Merci. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. We'll be right back.